Bonjour Edouard Baird.
Bonjour Michel Denisot.
Quelles sont les icônes qui vous ont conduit à être ce que vous êtes aujourd'hui ?
Des quantités. Je me suis construit qu'en filiation, qu'en admiration, qu'en essayant de rencontrer des gens que j'avais aimés. Des écrivains, des metteurs en scène, des acteurs, des patrons de café, des gens qui parlaient fort dans les bars. Je voulais en être, quoi, tout le temps.
Et il y a votre père au début aussi ?
Oui, mais parce que moi j'avais un père...
Qui vous a conduit à lire ?
Oui, mais ça m'a intimidé très tôt, mais j'avais un père beaucoup plus âgé, et j'avais l'impression que...
C'est assez fréquent.
Hein. Il avait quelques années de plus que moi. Non, mais il avait 45 ans de plus, il m'a eu tard, et c'était un monde d'après-guerre, c'était un milieu que j'ai beaucoup admiré enfant, je trouvais que c'était très marrant, que c'était j'aurais aimé en être, quoi. J'aurais aimé être ami de mon père.
Et votre père n'a pas écrit, et vous écrivez ?
Non, j'écris pas, j'ai mis par écrit un texte oral, en fait, mais je peux pas dire cette phrase, j'écris. J'ai juste écrit... Parfois, j'écris des préfaces, parce que c'est court, et parce que c'est l'autre qui écrit, donc on fait l'écrin pour l'autre. Mais enfin, là, j'ai pas écrit de roman, quoi.
Donc, c'est un spectacle que vous avez écrit, dont vous avez fait un livre, qui s'appelle « Les élucubrations d'un homme soudain frappé par la grâce ». Et on y trouve, en fait, vos icônes dans ce livre.
Oui, alors c'est vrai que vous dites que je l'écris oralement, puis après... J'ai accepté de le relire pour que ça soit une version écrite, donc ça c'était déjà... On peut écrire en lisant. Et puis, oui, dans ce spectacle, mon personnage, ou dans ce livre, il cherche des réponses à ses problèmes chez des gens qu'il a admirés. Et souvent, les lectures ou les films servent à ça, à trouver des réponses à notre vie de tous les jours. Et là, c'est dans des grands écrivains qui sont aussi des héros de la vie, comme Romain Gary, Albert Camus...
Romain Gary, pourquoi ?
Ah, mais... Là, il y a et l'écrivain et l'homme. D'abord, l'écrivain, moi, je trouve à la fois très... Il a une vision de la virilité qui est merveilleuse, quoi. C'est le seul homme qui dit, pour être vraiment un homme, il faut accepter sa part féminine. Et c'est à la fois un héros de la guerre, donc un type assez, pas dur, mais fort, enfin, et puis extrêmement sentimental. Ça me touche beaucoup, qu'on soit à la fois un héros et un enfant.
Oui, il a partagé sa vie avec Gene Seberg et à un moment donné,
il s'est tiré une balle dans la bouche. Enfin, il s'est suicidé. Mais tout le chemin, c'est-à-dire, c'est un homme qui à la fois s'est engagé à 20 ans dans l'aviation de la France libre. C'est un homme qui a écrit. C'est un homme qui avait une autre idée de ce que c'est qu'être un homme dans la société. Et à la fois, c'est un homme qui était presque à la limite de se déguiser. C'est un homme qui s'est inventé des identités. Il a créé un autre personnage qui s'appelle Émile Ajar. Enfin bon. Donc il y avait un rapport assez enfantin à la vie aussi.
Jean Rochefort aussi est présent dans cet ouvrage, et Jean Rochefort était présent dans votre vie, il a encore son téléphone.
Oui, mais je trouvais... Mais c'est une chose que j'avais vue qu'on disait sur Patrick Modiano, l'écrivain, c'est-à-dire qu'il faut continuer à appeler les gens qui sont morts, il ne faut pas enlever de son carnet d'adresse, ouais. Je crois. Il ne faut pas les rayer, il ne faut pas les effacer. Et parfois, le téléphone fixe était plus fort pour ça, parce que quand vous faites sonner un téléphone fixe, vous savez que votre coup de téléphone existe physiquement. Il y a une pièce quelque part où il y a une sonnerie qui retentit. Et parfois, on se dit, tiens, si j'appelais Jean Rochefort, et peut-être sur un malentendu, il pourrait décrocher, quoi.
Ouais, c'est une icône pour vous.
Oui, c'est une icône. Une icône, c'est quoi ? C'est des gens qui sont plus grands que la vie ou qui sont des petites statuettes qu'on mettrait dans son petit musée ou dans sa chapelle, oui.
Albert Camus.
Je sens que vous voulez me ramener au thème de votre émission Icône, Michel Denisot. Je vous tiens. Je vous tiens. Là, je le tiens, Denisot.
Albert Camus. Vous citez Albert Camus, notamment avec son ouvrage qui s'appelle La Chute.
C'est surtout La Chute, en fait. Albert Camus, c'est un personnage considérable. Mais c'est moins intime pour moi. J'ai l'impression qu'il appartient à tout le monde, alors que j'aime bien avoir des héros plus personnels. Mais dans le livre La Chute, il y a un personnage à qui il arrive un peu ce qui arrive au personnage de mon livre ou de ma pièce. C'est-à-dire, c'est quelqu'un qui croit, qui s'aperçoit en direct qu'il n'est pas l'homme qu'il croyait. Dans La Chute, c'est un grand avocat qui est là, c'est une sorte de héros de la vie. Alors, il se décrit lui-même, il dit « tout me réussissait, j'étais joyeux, je crois que j'avais un peu de succès avec les femmes dans la vie, j'avais des amis, enfin... » C'est un avocat qui, je ne sais pas si c'est maître Badinter, c'est vraiment un grand homme, et tout à coup, il marche dans la rue, et c'est l'hiver, il est sur les quais de la Seine, il entend un cri, il voit qu'une femme est en train de se noyer. Donc évidemment, il y va, puisque c'est un héros. Eh ben non. Il est en train de s'apercevoir qu'il n'y va pas. Donc il regarde son corps et dit « Mais attends, où mon corps ? Je suis un héros de la vie, j'y vais, je vais la sauver. » Il s'aperçoit qu'il n'est pas la personne qu'il croyait être. Et à partir de là, une fois qu'on sait qu'on n'est pas ce personnage social qu'on a créé, on n'arrive plus à le jouer. Quoi.
C'est le dilemme entre s'enfuir ou rester.
Alors s'enfuir, oui, c'est ça. Est-ce que l'héroïsme, c'est d'insister ? Et dans la vie amoureuse, on le voit bien. Est-ce qu'il faut insister ? Est-ce que c'est ça qui est courageux ? Ou de s'enfuir ? Et dans la vie, parfois, on est tout le temps confronté à ça, quoi. Quand on dit le plus grand courage, c'est de partir, ça c'est intéressant comme thème.
Charles Bukowski.
Charles Bukowski, ce que j'admirais beaucoup, beaucoup. D'abord, je trouve que c'est un style aussi très. On sent la nécessité à chaque page, quoi. C'est des coups de poing. Il y a une énergie d'écriture qui frime pas du tout. Il y a pas de séduction. Il y a pas de provocation non plus. Et puis, je suis stupéfait par le fait de quelqu'un qui a reçu. Je veux dire, tout est fait pour qu'il s'effondre dans la vie. C'est quelqu'un qui est né dans une famille où personne s'aimait, qui s'est pris des coups dans la gueule de son père, qui avait des furoncles sur la gueule quand il était adolescent. Les femmes l'ont pas aimé, il a pas gagné de pognon, il a été employé au Tripostal à tomber de fatigue. Et puis non.
Jusqu'à 50 ans, quasiment.
Voilà. Et à 50 ans, il décide de tout laisser tomber au moment où les gens prennent leur retraite pour se consacrer complètement à l'écriture. Alors qu'il n'a pas de contrat, rien. Il n'y a pas une grande maison d'édition qui lui fait pondre, pas du tout. C'est lui, c'est sa vie. Il s'installe dans sa piole, il se met de la musique sur sa petite radio et il y va, il tape sur la machine à écrire, il a rendez-vous avec lui-même. C'est, voilà, je trouve que c'est le sommet de la vie artistique, c'est-à-dire qu'il y a plus de. C'est un rendez-vous avec un peu. C'est une chose qu'on doit à soi-même de faire les choses, c'est une nécessité.
Vous citez Dostoïevski, non pas forcément dans l'ouvrage, mais parfois dans d'autres propos que vous tenez, c'est une référence pour vous. C'est...
Ah, j'ai osé citer Dostoïevski.
Ouais, vous lisiez quand vous étiez petit.
Ah non, j'ai pas lu Dostoïevski quand j'étais petit, j'ai pas réussi. Et plus tard, j'ai essayé d'en lire un peu. Mais non, mais là, c'est sur la profondeur, c'est sur l'épaisseur humaine que ça me frappe. Moi, il y a des livres tout à coup qui sont le contraire d'un sitcom, c'est-à-dire qui vous donne une telle. Quand on prend quelqu'un qui a l'air de voir tout ce qu'il y a de contradictions dans un homme, toutes les couches, les épaisseurs et tout ça. C'est un hommage à l'être humain dément, à toutes les folies qu'il y a dans un être normal. Quoi.
Proust, votre père a fait quelque chose sur Proust que vous n'avez jamais lu, car votre père n'a pas écrit, mais il a écrit ça et vous ne l'avez pas lu.
Oui, mon père, je crois, aurait aimé être écrivain, et puis il n'a pas osé parce qu'il se faisait une trop haute idée de la littérature. Quoi. Il s'est dit, ce qu'on m'a dit aussi, c'est si tu étais Proust, ça se saurait. Donc à partir de là, si on n'est pas Proust, on ne fait rien, hein, puisque si on est, on ne peut pas atteindre. Voilà, comme si je suis dans un cours de théâtre et que l'autre élève, c'est Gérard Depardieu, ben, j'arrête le théâtre, au fond, parce que je me dis, je ne serai jamais Gérard Depardieu. Bon. Et alors, oui, il avait juste écrit un mémoire de Cagne sur Proust, et puis je ne sais pas, ça m'a intimidé de le lire. Un jour, je le lirai, oui. C'est écrit à la main, avec une écriture d'écolier, un peu comme l'écriture d'Antoine Blondin, sans rature, comme ça, très, très sage écriture. Ouais.
Vous parlez de Gérard Depardieu, qui est une icône, j'imagine. Vous dites que c'était un duo à lui tout seul.
C'est plus que ça.
Ouais, ce que Isabelle
Lanty
l'appelle
le grand tout. C'est-à-dire, il y a tout. C'est le type le plus merveilleux, c'est la plus sombre ordure. Enfin, c'est lui-même qui le dit. C'est un enfant et un... Voilà. Non, mais ça aussi, à un moment, je voulais en parler dans le spectacle, sur cette idée, un peu comme, vous savez, dans la pièce Amadeus, le film aussi, il y a un personnage qui est Salieri, qui est l'autre grand compositeur à l'époque de Mozart, qui lui est très catholique, respecte toutes les règles sociales, les règles religieuses, et il est juste Salieri. Et puis arrive Mozart, qui est une sorte de jeune mec pétomane et tout ça, qui se fout de tout, qui soulève les jupes des filles, et c'est Mozart. Et donc il invoque Dieu, il me dit « C'est pas possible, Dieu, moi j'ai tout fait, j'ai sacrifié ma vie, tu as donné le génie à l'autre, c'est pas possible. » Et je pense qu'il y a quelqu'un qui pourrait être comme ça, que de par Dieu, mais c'est pas lui, mais non, mais moi j'apprends mes textes, moi je travaille tous les jours, moi je fais du sport, moi je suis gentil, pourquoi c'est de par Dieu qui a le génie? Ça c'est un thème aussi, le fameux « Pourquoi lui et pas moi ?»
Ouais, quelle relation vous avez avec lui?
D'admiration pas réciproque.
Il tourne dans le film que vous avez tourné, qui sortira quand les salles seront réouvertes.
Oui. Il est venu faire, il est venu gentiment comme ça faire un personnage, parce que là on a tourné un film qui s'appelle Adieu Paris sur des amis qui déjeunent ensemble depuis 50 ans, puis le jour où tout explose, et lui joue un de ces personnages-là, oui.
Michael Lonsdale aussi, c'était peut-être une icône pour vous, si j'ai bien compris.
Ah oui, mais Michael Lonsdale, c'est un envoûtement, Michael Lonsdale. C'est un acteur, c'est un acteur magique, un peu comme Jean-Louis Trintignant. Tout à coup, la voix est envoûtante, on ne comprend pas la technique. J'avais vu ça sur Michel Bouquet aussi sur scène. On ne comprenait pas comment il faisait. Vous savez, je crois qu'il y a des trucs, on appelle ça des trésors nationaux au Japon. C'est tellement... Il y a eu tellement de techniques, après on ne voit plus rien, et on fait semblant, et on rejoue avec de l'enfance comme si on n'avait rien appris. Moi je me rappelle d'une entrée, Lonsdale, il y a des... Si on revoyait Baiser volé de Truffaut, il y a une scène où Lonsdale vient chez un détective privé demander pourquoi on ne l'aime pas. Ce qui est extraordinaire, voilà. Il dit, c'est bizarre, tout va bien, oui, personne de même. Bon, il y a un phrasé qui n'est pas juste un phrasé technique, quoi. Il y a une âme particulière. Et Michel Bouquet, il fait une entrée dans Les Côtelettes de Bertrand Blier, la pièce qui est devenue un film. Au début, il y a Philippe Noiret qui est un immense acteur. On passe un moment, on se dit, on va passer un grand moment de théâtre. On frappe à la porte, Noiret va ouvrir, et là, il y a un petit monsieur en impair, tout gris, qui n'a pas de physique, Michel Bouquet, pas de voix, pas de physique, qui dit juste, je suis venu vous emmerder. Et là, on se dit, on ne comprend pas ce qui se passe. On ne peut plus lâcher le regard de lui, on ne peut plus arrêter de le regarder. Ça, c'est extraordinaire.
Jean-Yann.
Ah, oh, Jean-Yann. Non, mais c'est une ambiance, Jean-Yann, pour moi, c'est un monde, c'est... Parfois, je revois ces films, ils sont pas géniaux, mais c'est le personnage, c'est une façon d'agiter la société, de faire rire, c'est des caractères, c'est des... Moi, ça met de bonne humeur que Jean-Yann existe, quoi, parce que j'en parle au présent, parce qu'au fond, on voit souvent des trucs. C'est merveilleux d'avoir Jean-Yann, d'avoir cet esprit-là, cette liberté-là, oui.
On peut terminer avec Fanny Ardant.
Ah, Fanny Ardant, oui, parce qu'il y a quand même aussi beaucoup d'icônes féminines, ouais. Quand même. Et souvent, quand on dit icône, quand c'est féminin, on croit que c'est juste sur la séduction et physique. C'est étrange, hein, la misogynie un peu inconsciente qu'il y a en nous. Fanny Ardant, c'est pareil, c'est une grâce particulière, c'est quelqu'un qui ressemble à personne d'autre et où l'émotion est tout le temps là, quoi. C'est stupéfiant d'être dans cette émotion tout le temps, surtout de la crèche et la personne en face, quoi. Il y a une sorte d'apnée quand on écoute Fanny Ardant, quoi.
Ou limité, non?
Non, je ne serais pas limité. Non, je n'oserais pas. Vous voyez, on n'ose pas tout.
Est-ce qu'il y a des icônes qu'on a oubliées?
Ah oui, mais oui, il y en a plein. Non, mais après, voilà, il y a, dans ce métier-là, en tout cas, j'en avais beaucoup, que ce soit j'étais fasciné par Maria Paco et Jacqueline Maillan, par exemple, parce que c'est que c'est des personnes qui, dès qu'elles sont sur scène, tout à coup, une énergie, un charisme dingue surgissait. Michel Serrault, Jean Poiret, c'était fou pour moi aussi, c'est fou. Et puis voilà, et puis après, c'est peut-être lié aussi à une époque, on a l'impression que c'était, qu'il y avait une sorte qui est fausse, hein, mais que c'était facile, qu'ils étaient comme ça. Mmh. Et ça faisait plaisir de se dire qu'il y avait des gens si singuliers. Il y en a, hein, ouais. Il y en a, attention, je ne veux pas dire que c'était mieux avant. Mais c'était merveilleux, on avait envie de les croiser, on avait envie de se dire, tiens, où ils sont, on avait envie de les voir, on avait envie d'être dans leur roue, quoi. Mmh. J'avais ça avec Claude Chabrol, j'étais fasciné par les films et par le personnage aussi de Claude Chabrol. On se disait, on a envie de le suivre, d'être à table avec lui, quoi. C'est des gens à qui on a envie d'être à table aussi.
Est-ce qu'il y a des anonymes qui sont des icônes?
Ah oui. Beaucoup, moi j'ai eu beaucoup de gens que j'ai croisés dans la vie, au café, j'ai eu des professeurs à l'école, des amis de mes parents, des copains à moi qui sont des icônes dans le sens qu'ils sont incroyablement eux-mêmes, qui ressemblent à personne d'autre et qui le sont jusqu'au bout dans leurs défauts aussi. Quoi. Moi, pour moi une icône c'est quelqu'un voilà, qui est lui à 1000%, quoi. Donc c'est une électricité particulière.
Merci beaucoup.
Merci.